See, mama knows I'ma be a great, yeah. See, mama knows I gotta be patient. I don't really have no time for no hater. And if you're trying to knock me down, I'll see you later. I'ma show you what I'ma do.
Directions on how to use your radio. Find the power button. Turn it to on. Turn the knob to CKUT 90.3 FM. Relax and enjoy.
Je m'appelle Alice Wu et voici quelques des gros titres récents. L'Assemblée nationale du Québec a adopté la loi 96 mercredi dernier. Cette loi est d'une portée considérable, contenant plus de 200 articles. Elle renforce d'une manière significative la Charte québécoise de la langue française. Des centaines de Montréalais se sont rassemblés à la Place du Canada jeudi dernier pour manifester contre la loi pour la deuxième fois. La Commission scolaire English Montréal a déclaré qu'elle va entreprendre une contestation judiciaire de la loi. Et un vol organisé par le gouvernement fédéral contenant des centaines de réfugiés ukrainiens a atterri à Montréal dimanche matin. 400 Montréalais ont offert d'accueillir des Ukrainiens fuyant l'invasion russe de leur pays d'origine. Et le Québec a annoncé qu'il va fournir des vaccins antivarioliques à des contacts de cas confirmés ou suspects de la variole simienne. La variole simienne est principalement transmise par le contact étroit et prolongé. Et certains Québécois vont passer plusieurs semaines privés d'électricité. Ceci survient après la tempête qui a traversé le Québec et l'Ontario le 20 mai et a endommagé sérieusement des lignes électriques.
Dans nos sociétés de surveillance, où tous nos moindres faits et gestes sont épiés, contrôlés, calculés, puis enregistrés dans d'immenses bases de données, réfléchir sur le rôle colonial, capitaliste et oppressif de la police et des prisons s'avère plus que jamais incontournable. Quand de nouvelles vidéos d'interventions policières font scandale par leur violence raciste, les dirigeants, les policiers et les politiciens parlent de pommes pourries. Mais si on observe la tendance de fond, ces bavures se répètent depuis des décennies. Les écarts de conduite des policiers sont systématiques, la violence policière est systémique. Il est grand temps d'en finir avec la vision libérale, hypocrite et mensongère, voulant que tous les vices de la police soient le fruit de quelques pommes pourries. Des racines aux bourgeons, les services de police de tous les paliers sont autant de pommiers dégueulasses dans un horrible verger de pourriture. Attaquons-nous donc au verger au complet.
Nous en entendons peu parler, mais il existe plusieurs centres de détention pour migrants et migrantes au Canada, dont un à Laval, où des adultes et des enfants sont enfermés seulement pour avoir essayé de venir vivre au Canada. C'est avec l'arrivée du navire MV Sunsea en Colombie-Britannique en août 2010 que les médias ont commencé à s'intéresser à la détention des personnes migrantes et à leurs conditions de détention. Rappelons que lors de cet événement, 492 personnes originaires du Sri Lanka s'étaient réfugiées à bord du navire pour fuir les violences et la guerre civile dans leur pays en venant demander l'asile au Canada. En tout, ce sont alors 443 adultes et 49 enfants qui ont trouvé la détention comme politique d'accueil au Canada. En dehors de la période de COVID-19, c'est près de 8000 personnes qui vivent dans ces prisons, dont près de 2000 au Québec, entre autres dans la prison de Laval. Pour cet épisode du Verger au complet, nous parlerons avec une membre du comité anti-détention de Solidarité sans frontières qui s'oppose à la détention des personnes migrantes et qui supporte les personnes incarcérées et leur lutte. Alors peux-tu nous dire pour commencer, comment est-ce que tu as commencé à t'impliquer avec le comité anti-détention de Solidarité sans frontières?
Ça fait à peu près 5-6 ans que je m'implique avec Solidarité sans frontières. C'est sûr, moi j'ai vécu des expériences d'incarcération dans des centres de détention, puis en prison aussi. Fait que j'ai toujours eu une sensibilité face à l'incarcération, parce que je me donnais vraiment envie de m'impliquer plus auprès des personnes détenues. Puis c'est ça, ma famille aussi, ils ont tous les membres de ma famille ont vécu aussi des incarcérations. Fait que c'est ça, je m'implique dans le fond, dans le milieu abolitionniste montréalais depuis les 10 dernières années environ. Puis Soldats sans frontières, pour moi, c'est un peu la continuité, entre autres parce que c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup non plus, la détention de personnes migrantes. Puis on pense que, je pense, à un certain moment, on a commencé à faire des tournées un peu pour parler de la construction du nouveau centre de détention. Puis j'étais étonnée de voir que les gens, ils savaient pas du tout que ça existait. Fait que ça m'a comme donné encore plus envie, en fait, de m'impliquer, entre autres, dans le comité anti-détention de Soldats sans frontières.
Et quel est le travail du comité anti-détention?
Ben c'est ça. On fait plusieurs choses, puis ça dépend toujours de qui s'implique dans le comité, puis c'est quoi les réalités carcérales à ce moment-là. Mais de façon générale, on fait du soutien tant émotif que matériel, c'est-à-dire qu'on appelle les personnes qui sont détenues. Parfois, on fait les liens aussi avec leur famille. On s'assure d'avoir des personnes qui vont parler plusieurs langues aussi pour pouvoir communiquer avec les personnes en détention. On leur apporte des cartes d'appel, par exemple, ou du matériel de base, là, que ce soit dentifrice, etc. Souvent aussi, on va faire des relations avec les médias, parce que, comme je disais, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui s'intéressent à la détention des personnes migrantes. Fait que finalement, en étant en contact avec les gens, on devient un peu... souvent, en fait, ce que les gens nous demandent à l'intérieur, c'est de dénoncer qu'est-ce qui se passe. Fait que, dans la mesure de notre possible, et toujours... avec la parole des personnes qui sont détenues, on essaie de médiatiser un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur des murs. Entre autres, quand il y a eu les grèves de la faim, il y en a eu une en 2020 puis une en 2021. Puis dans le fond, le comité anti-détention de SSF s'est comme recréé à ces moments-là parce qu'il y avait des gens à l'intérieur qui avaient le désir de lutter puis de dénoncer leur situation. Donc, on les a appuyés ce temps au niveau médiatique qu'émotivement. Puis souvent aussi, les personnes peuvent subir de la détresse psychologique ou déjà rentrer avec des problèmes de santé. Puis les soins de santé à l'intérieur sont vraiment pas adéquats. Donc, ça nous est arrivé souvent de contacter des médecins à l'extérieur pour organiser des rencontres téléphoniques, dans le fond, entre les personnes détenues et des médecins à l'extérieur pour avoir des avis médicaux, ce genre de choses-là. On a fait aussi des campagnes de sensibilisation, d'éducation populaire sur la réalité des personnes détenues, des mobilisations contre la construction du nouveau centre de détention. On fait aussi beaucoup de liens avec des avocats parce que c'est souvent les gens qui sont en dedans, ben, ce qu'ils veulent, c'est sortir. Puis pour sortir, ben, il faut un avocat la plupart du temps. Puis ça, c'est compliqué. Fait que on essaye, selon nos capacités, de trouver des avocats, avocates qui peuvent soutenir les détenus. Une autre chose aussi qu'on fait, c'est qu'on essaie de ramasser de l'argent pour pouvoir payer parfois les cautions ou mettre des montants d'argent en garantie pour que les gens puissent sortir. Puis on essaie, dans le fond, de créer un réseau de solidarité où est-ce que quand il y a quelqu'un qui sort, ben peut rester à quelque part, il y a une chambre de libre, on essaie de trouver des appartements à pas trop cher. Donc c'est ça, là. T'sais, finalement, on est là en soutien aux personnes qui sont à l'intérieur, puis on fait de notre mieux pour les accompagner tout au long de leur processus jusqu'à leur sortie, dans le fond. Puis même après, là, t'sais, y a beaucoup de gens même qui se sont fait déporter avec qui on est encore en contact quotidiennement, puis ouais, c'est ça.
Waouh, ça a l'air d'être beaucoup de travail. Puis, pourrais-tu nous décrire un petit peu, ça fonctionne comment les prisons pour migrants et migrantes au Canada?
Ouais, en fait, c'est ça. En ce moment, il y a 3 centres de détention. Un en Colombie-Britannique, un à Toronto, puis un à Laval. Ben, en fait, 2 maintenant à Laval, je pense, puis 2 aussi en Colombie-Britannique, parce que depuis 2016, il y a eu beaucoup de financement dans le fonds gouvernemental pour la construction de 2 nouvelles prisons pour migrants. De façon générale, un peu n'importe qui peut se ramasser là qui a un statut migratoire un peu précaire. Puis même des personnes avec la résidence permanente aussi peuvent finir en détention. Dans le fond, la détention, ça, c'est vraiment comme une prison, là. Fait que t'es un peu comme coupé de tout droit. Tes appels peuvent être limités. Quand c'était la COVID, les conditions de détention en centre de détention pour personnes migrantes et en prison étaient vraiment similaires aussi, là. Pas de visite, etc. Appels limités. Les gens, dans tout leur transport, sont menottés les pieds, les mains. C'est le même fonctionnement qu'une prison générale. C'est ça. Après ça, les gens qui sont détenus, ça va être soit parce que ils sont demandeurs d'asile puis les autorités ont de la difficulté à prouver leur identité, soit qu'il y a un risque de fuite. Fait qu'on se dit, ah ben la personne a... si on la libère, elle restera pas. Si jamais on lui donne pas un statut régulier, elle va essayer de s'enfuir ou de devenir sans statut puis vivre comme ça. Des fois, c'est des personnes qui marchent dans la rue, ils se font arrêter par les flics pour une surveillance régulière, juste parce que les flics sont racistes, puis ah, statut régulier, rentrant dedans. Fait que c'est vraiment... c'est ça, il y a tellement de gammes de personnes qui sont détenues, puis ce qui est fâchant, puis dramatique, puis que ça n'a pas d'allure, c'est qu'il n'y a pas tant de limitations, dans le fond. Fait que tu peux rester en dedans. C'est comme... C'est l'agent des services frontaliers qui décide avec les juges combien de temps tu restes en dedans, tu sais. T'as pas de date de sortie quand tu rentres, fait que... Puis, tu sais, des fois, ça arrive que... on a de la difficulté, ben les autorités ont de la difficulté à prouver ton identité, puis le pays dans lequel t'es né veulent pas fournir les documents nécessaires pour t'identifier. Fait que ça fait, ben parfois tu peux rester 3, 4, 5 ans en centre de détention, mais c'est juste sur une question de régulation d'identité. Puis c'est ça. T'sais, même les autorités elles-mêmes dans leur rapport le disent, les gens, c'est pas des risques pour la société, par exemple. Il y a comme pas de bonne raison pourquoi ils sont là, c'est juste une tentative de régulation sociale puis de contrôle des corps, puis s'assurer que on veut pas, dans le fond, qu'ils soient sans statut puis qu'ils se promènent librement à Montréal si jamais il y a un ordre de déportation, par exemple. Puis, ah oui, c'est ça, il y a environ 9000 détenus par année en centre de détention, puis là-dessus, il y en a beaucoup qui restent plus qu'un an en détention. Puis aussi, il y a un tiers à peu près des détenus par année qui se retrouvent en prison fédérale, en prison provinciale, soit parce qu'il n'y a pas de centre de détention qui sont à proximité de la région où est-ce qu'ils sont fait arrêter, ou juste parce que les centres de détention sont trop remplis. Puis ce qui est fâchant aussi là-dedans, c'est que c'est l'Agence des services frontaliers qui décide, dans le fond, où est-ce qu'ils vont te placer. Puis si jamais t'es une personne qui a des problèmes de santé mentale ou t'es en choc post-traumatique ou ton arrestation t'a fait vivre des émotions parce que c'est crissement normal, ben ils peuvent considérer que t'es un danger, donc un risque élevé parce que tu prouves une instabilité mentale. Puis là, ils vont t'envoyer dans une prison provinciale en disant qu'il y a plus de soins de santé qui sont disponibles là-bas, alors que c'est totalement faux. On sait que les conditions de détention en prison provinciale, c'est les pires. Fait que c'est ça, ce qui est fâchant là-dedans, c'est que c'est l'agent des services frontaliers qui a tout le pouvoir, là. Puis souvent, c'est ben, les flics puis l'agent des services frontaliers travaillent main à main pour assurer que les détenus restent en détention. Puis aussi, c'est ça, ils peuvent avoir des enfants en détention. Puis ils vivent dans les mêmes conditions que leurs parents, souvent leur mère, en fait. Puis pendant la COVID, il y avait plus de visites du tout. Fait que pour les détenus, c'était super dur d'avoir des contacts. Puis parfois, c'est des gens qui connaissaient personne à Montréal. Fait que c'est ça, il y a comme un isolement vraiment intense qui se passe. Puis un peu comme en prison aussi, avec la COVID, ben les gens étaient en isolement forcé, là, beaucoup, beaucoup. Fait que, puis il n'y a aucun soutien psychologique là-dedans. Puis, là, je pense que la société québécoise est peut-être plus sensible maintenant à l'isolement. Qu'est-ce que ça crée comme bouleversement mentaux? Qu'est-ce que ça peut nous faire vivre? Mais il y a du monde qui ont passé plusieurs mois dans des cellules d'isolement, là, mettons. Alors que les gardes, par exemple, n'étaient pas du tout testés. T'sais. Puis si quelqu'un avait des symptômes de COVID, bon, il disait « Ah, inquiète-toi pas, prends une petite nélope. » Il n'y avait comme pas vraiment de réelle prise en charge pour les détenus. C'était comme... Puis le fonctionnement, ouais, c'est ça. Ils sont surveillés tout le temps. Ils sont menottés, puis tout. Puis souvent, il n'y a aucun interprète. Fait que, tu sais, si jamais tu parles pas français ou anglais, ben c'est dur de comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport à ta situation aussi. Puis ils disent qu'ils fournissent des interprètes, mais c'est faux. Il y a plusieurs moments où est-ce que nous-mêmes, on accompagne des gens dans leur audience, par exemple, de détention, puis ils nous disent « Ah non, non, vous pouvez pas venir, il y a des interprètes. » Puis après ça, quand on demande aux personnes qui sont allées, ils nous disent « Non, non, j'ai jamais eu d'interprète, j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. » Fait qu'il y a beaucoup d'irrégularités. Puis c'est ça, dernièrement, à la fin janvier, il y a quelqu'un qui est décédé en détention aussi. Puis l'Agence des services frontaliers, ils disent « Ah, ben la personne a eu des problèmes de santé, puis on n'a pas su intervenir. On l'a envoyé à l'hôpital, puis elle est décédée à l'hôpital. » Mais il n'y a aucune enquête qui a été menée. Puis il n'y a aucune enquête indépendante, surtout, qui a été menée. Fait que c'est l'Agence des services frontaliers qui crie son propre narratif. De genre « Ah oui, la personne était malade et décédée, mais on sait très bien que les conditions de détention sont rudes, puis que... les agents font pas bien leur job non plus, là. Ouais.
Perdre son temps à tâter l'impossible, ça devient fatigant. quand s'accumulent les cibles et non les victoires. Perdre son temps à vouloir tout changer, il faut une bonne raison pour recevoir la fessée. Faudrait se faire bombarder, violer, torturer comme celles et ceux que l'on vole sans jamais y penser. Il faut une bonne raison pour pas se laisser aller, avoir le choix. C'est ce que l'on appelle être privilégié. Laisse tomber, oh laisse tomber, laisse tomber.
Combien de temps en moyenne les personnes restent-elles détenues dans ces prisons?
Le temps moyen, c'est dur à dire parce qu'il y a des gens qui vont passer un week-end ou une semaine, puis il y a d'autres personnes, comme je l'ai dit, qui vont passer une année. Il y a un cas un peu extrême, là, mais qui n'est pas dans la majorité, mais qui a passé 11 ans en détention. Ça dépend. Il y a même des enfants qui naissent en détention, par exemple, puis qui restent là, leurs premières années de vie. Fait que c'est dur d'établir un temps moyen. Mais mettons, une couple de mois, ça doit être le temps moyen. Là. En tout cas, moi, les gens que j'ai soutenus, je te dirais que c'était entre 2 et 6 mois qu'ils étaient là.
Et comment est-ce que les gens font pour sortir de ces prisons?
C'est toute une question parce que, soit il faut que leur statut soit prouvé d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qu'il y a un passeport valide, puis qu'ils ne représentent pas un risque. Je le mets en parenthèse, là, entre guillemets, un risque pour la société. Fait qu'il faut que le ou la juge donne son autorisation pour que les gens sortent. Puis souvent, c'est plus dur de faire sortir quelqu'un de centre de détention pour personnes migrantes que d'un centre de détention provincial, par exemple. Parce que c'est, on dirait qu'il y a comme un risque pour la société que cette personne devienne sans papier puis continue de jouir des privilèges du sol canadien. C'est ça. Puis, dans le fond, souvent, le monde, pour sortir, sont soumis à des conditions qui n'ont vraiment pas rapport. Là. C'est souvent... Il y a toujours un lien de dépendance, dans le fond. T'sais. On va toujours les juger comme des personnes dépendantes qui ne seront jamais autonomes. Fait que pour qu'ils sortent la majorité du temps, en tout cas, moi, dans mon expérience, des gens que j'ai soutenus, il faut une personne qui se porte garante, c'est-à-dire une personne qui a sa citoyenneté canadienne puis qui est capable de prouver un certain revenu puis qui a une forme de crédibilité, là, mettons. Si je peux dire ça comme ça. Après ça, souvent, il faut que cette même personne-là qui est garante dise « Oui, la personne peut venir habiter chez moi, j'ai une chambre, etc. » Puis je peux subvenir aux besoins de cette personne-là. C'est comme un peu un genre de parrainage, dans le fond, que tu fais pour assurer à l'autorité que cette personne-là n'ira pas underground, par exemple, ou c'est ça, qu'elle va se soumettre à toutes ces conditions de détention.
Une fois sorties, ces personnes, elles sont traitées comment?
Ils sont toujours mis sous tutelle, dans le fond. C'est très rare qu'une personne va sortir puis qu'on va dire « OK, bonne chance, c'est fini. » Ça va être comme « OK, mais il faut un garant, il faut quelqu'un qui est responsable de toi tout le temps. » Puis il faut qu'on s'assure que quand tu vas recevoir ta lettre disant que tu as une audience, il faut que tu te présentes. T'sais. Fait que comment on s'assure ça? En ayant une personne avec sa citoyenneté canadienne qui s'engage à faire respecter ces lois-là. Fait que même pour la personne qui est garante, ça crée un rapport qui peut être vraiment bizarre, là, que... Je pense qu'entre nous, membres du comité, on n'a pas ce rapport-là avec les gens qu'on peut soutenir, mais des fois, les gens, ils soutiennent, puis ils connaissent une personne à Montréal, l'ami d'une tante X. Puis là, finalement, c'est cette personne-là qui se retrouve un peu avec tout le poids de la surveillance, puis cette personne-là finit par avoir peur que l'autre personne ne respecte pas ses conditions. Fait que ça peut miner des relations. Puis, nous autres, c'est arrivé que les flics débarquent dans des maisons que nous, on avait trouvées, avec des personnes 40 qu'on avait trouvées, à la recherche du détenu en question, là, par exemple. Fait que, tu sais, c'est comme... Ils sont un peu intenses, là, mettons. C'est ça. Ils débarquent chez vous, puis ils fouillent, puis... Tu deviens comme très responsable de la personne, mettons.
Est-ce qu'il y a d'autres scénarios par lesquels les gens peuvent sortir de ces prisons?
C'est ça. Puis souvent, si les gens, ils sont... Tu sais, pour sortir, mettons, de détention, des fois, ils sont juste déportés aussi. Puis ça nous est arrivé, nous, que des gens qu'on soutenait, tu sais, avec qui on parlait quotidiennement au téléphone, qu'on avait vraiment des liens quotidiens, se fasse déporter, puis qu'on le sache juste 2-3 jours après quand la personne est de retour dans le pays où elle est née, en tout cas, où est-ce que le Canada l'a renvoyé, mettons, puis qu'elle nous appelle, puis qu'elle dise « Merde, je me suis fait déporter », tu sais. Fait qu'il y a aussi comme un peu un couvert de silence, là. Puis une autre manière d'être libérée, paraît-il que c'est la COVID en novembre 2020, là. Ils ont comme... partout au Canada, ben dans les centres de détention canadiens, pour personnes migrantes, ils ont fait sortir la majorité des gens. Fait que c'est comme un peu drôle aussi, là. D'une part, c'est des grands risques pour la société, mais d'autre part, quand il y a la COVID, on peut les mettre à l'extérieur. Ils peuvent faire une vie normale parce que finalement, ils sont pas un si grand risque, là.
Et toi, t'en penses quoi, mettons, de la politique d'immigration actuelle du Canada, puis de l'accueil qu'elle réserve aux personnes qui sont migrantes et sans statut sur le territoire?
Je pense que on a un système d'immigration, je peux dire fucked up, là. Je pense que c'est un système de suprématie blanche qui reproduit les inégalités, puis qui fait des classes de citoyens, puis des classes de personnes migrantes. Puis quand t'es sans statut, ben, t'sais, t'es vraiment juste. T'as accès à absolument rien, là. T'sais, c'est ça qui est compliqué. Puis souvent, on va te demander ton statut, t'sais, une preuve de ton identité, tant quand t'as des enfants qui vont à l'école, par exemple, t'sais, ou quand tu vas chez le médecin. T'as comme plein de services de base, dans le fond, de soins de base que tu peux pas avoir accès légalement, mettons. Puis qu'à chaque fois que tu sors, c'est comme un risque de te faire prendre aussi. Fait que ça te précarise vraiment beaucoup, puis ça t'oblige souvent à prendre des emplois qui sont super précaires, puis que, tu sais, dans lesquels parfois il va y avoir des descentes aussi, parce que finalement, tu sais, le monde finit par souvent travailler aux mêmes espaces, puis quand il y a des descentes, par exemple, ben, t'es hyper précaire, puis, tu sais, soit tu t'enfuis, soit tu te fais mettre en détention. C'est beaucoup des gens qui vont travailler dans des soins essentiels aussi. Puis, tu sais, par exemple, quand c'était la COVID, ben, ça a vraiment touché les personnes sans papier de manière intense, là, juste au sens où, avec le couvre-feu, tu sais, là, tu te promènes dans la rue, mais ben, à chaque fois que tu sors de chez vous puis tu n'as pas un statut qui est régulier, mais ben, c'est toujours une prise de risque. Fait que là, tu sais, si en plus il y a la surveillance policière puis que tu n'as légalement pas le droit de marcher dans la rue, par exemple, mais que tu travailles comme femme de ménage dans un bureau, tu sais, ben, qu'est-ce que. C'est ça. Ça complique un peu ta situation.
Selon toi, c'est quoi l'impact que ces conditions ont sur les personnes qui sont sans statut au territoire?
Clairement, une personne qui est sans statut serait mieux placée que moi pour parler de comment ça a l'impact, mais pour avoir été en contact avec des personnes sans statut, c'est vraiment lourd sur la santé mentale des gens aussi. Il y a toujours. Tu te sens toujours sur tes gardes. Tu peux jamais t'établir non plus ici. Il y a des gens qui peuvent avoir. T'sais, toute leur démarche migratoire peut prendre, je sais pas, 5-6 ans. Finalement, ils ont un enfant ici. Puis là, soudainement, leur demande de résidence permanente est refusée. T'sais. Fait que là, OK, mais merde, même ça, c'était pas sûr. Fait que là, il faut que je me reconstruise une vie, mais je veux-tu vraiment me retourner dans le pays que je viens de quitter alors que t'as mille et une raisons pour quitter le pays où t'étais, mais que t'sais, souvent, t'as pas envie d'y retourner. Puis c'est comme dur, je pense, pour les... Ce que j'entends beaucoup des gens qui sont sans statut, c'est que c'est très dur de s'imaginer puis de s'ancrer à quelque part, là. Fait que c'est ça. Y a comme... Les personnes sans statut sont juste oubliées complètement, dans le fond, dans notre système d'immigration. Puis ça les précarise énormément, je pense.
Le gouvernement propose des alternatives à la détention. Par exemple, le bracelet de cheville électronique. Toi, c'est quoi ta position par rapport à ces alternatives-là? Est-ce que tu as un avis sur cette question?
Ben, ma position personnelle, c'est sûr que je suis pas pour les mesures alternatives, mais je suis pas non plus pour la détention. Fait que. C'est ça, tu sais. Je pense que c'est un système qu'il faut qu'on change, là. Puis avec une perspective abolitionniste qu'il faut qu'on mette plus en place, je pense. Puis c'est ça. Dans le fond, les alternatives à la détention, c'est ça. En 2016, là, quand ils ont décidé d'injecter plein d'argent pour construire les nouvelles prisons, ils ont aussi injecté 5 millions dans le financement des alternatives à la détention. Puis c'est-à-dire, c'est de la surveillance électronique par un GPS sur ton cellulaire, par exemple, qui est activé en tout temps, un bracelet électronique. Puis souvent, dans le fond, quand ils disent « OK, t'as une alternative à la détention », mais il faut aussi que tu prouves que comme tu t'intègres dans la société. Fait que des fois, il faut comme que tu fasses du bénévolat, mettons, tu sais. Mais là, l'organisme pour lequel tu fais du bénévolat devient un peu l'organisme qui te surveille, tu sais. OK, ben oui, il faut que tu viennes nous voir. C'est un peu comme John Howard Society, qui sont c'est un genre d'organisme qui milite, dans le fond, pour les mesures alternatives, mais ça fait qu'ils deviennent comme eux-mêmes responsables s'il y a des gens qui, t'sais, qui se présentent pas à leur audience, par exemple, ou... c'est ça. Fait que ça... Moi, je trouve que c'est juste des outils de contrôle, puis c'est juste de reproduire la prison, mais à l'extérieur, puis c'est jamais reconnaître l'autonomie des gens, puis toujours les voir comme inférieurs aussi à nous, comme une seconde classe de citoyens, puis c'est vraiment problématique. Surtout, puis en tout cas, je veux pas faire une hiérarchisation des crimes ou quoi que ce soit, mais c'est comme... C'est un bout de papier, là, quand même, là, qui prouve ton identité. Je veux dire, c'est... Je pense pas que les prisons non plus, c'est bien, mais pour une personne migrante qui... Je sais pas, là, tu t'en as travaillé, t'avais pas tes cartes sur toi, par exemple, ou tu vis sans papier, là, boum, tu te ramasses en prison. Puis c'est juste que ton incarcération, elle va te suivre tout au long de ton parcours migratoire, que tu sois à l'intérieur des murs ou à l'extérieur. Puis ça vient avec des mesures répressives de contrôle qui te rappellent sans cesse que t'es pas le bienvenu ici, tu sais. Puis qu'à tout moment, c'est l'État canadien qui a le pouvoir sur ton corps, tu sais. C'est je pense que c'est problématique.
Tout ce que je veux, c'est brûler des condos, puis choquer des boomers, éclater des bombes. Brûler des condos, puis choquer des boomers. Tout ce que je veux, c'est brûler des condos, puis choquer des boomers, éclater des bombes. Brûler des condos, brûler des condos. Tout ce que je veux, c'est brûler des condos. Tout ça sur Ontario. Demande au blond dans mon verre d'eau. Je veux brûler le Québec de Lego. Choquer des boomers, sortir des bangers, sniffer des bombers.
Le gouvernement du Canada construit une nouvelle prison pour personnes migrantes à Laval. Pourquoi est-ce que c'est important qu'on s'y oppose?
Ben parce que c'est pas les prisons qui vont changer les choses. Mais c'est ça, la nouvelle prison pour migrants, migrantes à Laval, je sais pas si c'est en activation, par exemple. On est en train de chercher de l'information à ce sujet-là. S'il y a des personnes qui sont détenues là en ce moment, on pense pas. Mais c'est ça, dans le fond, depuis 2016, on fait aussi des recherches sur c'est qui s'implique dans ce projet-là, c'est quoi l'espèce de discours en arrière aussi de la construction de la nouvelle prison, puis il y a comme un côté très hypocrite de vouloir humaniser la prison en disant « Ah, ben tu sais, on va s'assurer que les barbelés sont pas visibles pour les gens qui circulent sur la rue, par exemple, tu sais, parce qu'il faudrait surtout pas qu'on sache qu'il y a des personnes qui sont en prison à cause que leur bout de papier est pas convenable pour les autorités, tu sais. » Ou de s'assurer que les enfants, tu sais, qu'il y ait des jeux pour enfants. T'sais, que, ah ben super, tu sais, on va jouer à des jeux dans une prison. Tu sais, en tout cas, il y a comme une espèce d'hypocrisie, même c'est la firme architecturale, là, tout un discours de surveillance qui est vraiment dégueulasse quand tu lis tout leur plan de développement, puis comment ils conçoivent la prison, puis comment ils essayent de l'emballer dans un petit décor joyeux, mais t'es comme ça changera en rien les conditions de détention, puis je veux bien croire que les douches vont peut-être être plus propres, mais le système migratoire va rester le même, puis la répression, puis la mise sous tutelle des personnes migrantes va rester la même, fait. Tant qu'à moi, je pense qu'il faut pas penser qu'en construisant des nouvelles prisons, les conditions de détention vont changer, mais il faut plus chercher à abolir les prisons, puis à lutter contre la construction de nouveaux centres de détention, entre autres, là, puis surtout à faire connaître, en fait, que ça existe. Puis c'est ce que je disais tantôt, mais t'sais, quand on faisait des ateliers, justement, pour dénoncer cette construction-là, mais c'était vraiment épatant, même dans nos milieux, parfois, qui sont un petit peu plus de gauche, là, les gens étaient comme « Ah ouais! » Il y a un centre de détention de personnes migrantes, je savais pas. Tu sais, il y avait vraiment, ben, je pense qu'il y a encore vraiment une méconnaissance de ces enjeux-là. Puis je pense que c'était important qu'on lit nos luttes aussi anticarcérales sur toutes les modes de détention, là, parce que la prison pour migrants, migrantes, c'est une prison, puis c'est rien d'autre que ça. Puis ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'il faut qu'on s'oppose à la construction de toute nouvelle prison. Puis je pense pas que l'incarcération d'individus, c'est la solution pour changer quoi que ce soit dans notre société.
C'est quoi les intérêts des gouvernements face à ces détentions? Comment justifie-t-il que des prisons pour personnes migrantes soient nécessaires au Canada?
Ben c'est ça, là. Je pense qu'on a vraiment un discours de suprémaciste blanc aussi, puis qu'il y a toujours la crainte, là, la menace d'un immigrant ou d'une immigrante. Là. Il y a comme vraiment un discours paternaliste qui est utilitariste aussi. Là, de, ben, si tu viens ici, il faut que tu sois quiet et que tu travailles. Puis si t'es un immigrant économique, ben tant mieux. Mais si t'es pas ça, ben tant pis. Puis ça vient avec des conditions de vie qui sont... qui peuvent être vraiment répressives, dans le fond. Fait, je pense que le gouvernement... Ben, clairement, c'est dans un truc de régulation sociale aussi, là, mais je pense que le message social qu'il envoie à la population, c'est de dire on fait quelque chose, on encadre les personnes migrantes, ils vivront pas ici s'ils ne le méritent pas. T'sais, puis il y a vraiment. On dirait que j'ai comme de la misère à répondre à cette question-là parce que je suis vraiment pas d'accord avec leur discours. Là.
Ben, je trouve que c'est le même discours qui est partout. Qui va être pour la construction d'une prison aussi, puis de donner autant de pouvoir aux policiers, par exemple, ou à l'agence des services frontaliers qui va décider de qui va en prison, qui va pas, où est-ce que cette personne est incarcérée, quand est-ce qu'elle peut sortir. Et, c'est vraiment une subordination, puis je pense que c'est juste... C'est une vision de suprématie blanche qui se donne le pouvoir, puis le devoir, en fait, de contrôler tous les corps qui rentrent sur le territoire, puis de décider qui mérite... l'hospitalité canadienne ou pas, puis c'est ça, ouais. C'est de la merde.
Est-ce que tu penses qu'il existe des bonnes prisons pour personnes migrantes, ou est-ce qu'il serait préférable de les abolir tout simplement?
Ouais, ben si c'était si simple, je pense qu'on aimerait tout ça les abolir. Je pense que c'est ça. Personnellement, puis dans le comité anti-détention aussi, on a une perspective abolitionniste, là, fait qu'on pense beaucoup à la prévention, puis à la mise sur place de ressources externes à la répression pour gérer les situations conflictuelles, par exemple. Puis finalement, tu vois que tout part souvent de comme, t'as-tu un logement, t'as-tu assez d'argent pour te loger puis te nourrir. Il y a comme tellement de choses qui sont imbriquées, t'sais. Puis c'est ça. Est-ce que t'es une personne racisée? Est-ce que tu subis de la discrimination? Est-ce que, t'sais, je sais pas, il y a comme plein de systèmes d'oppression qui font en sorte que finalement, c'est souvent les mêmes personnes qui se ramassent en détention, puis... Je pense pas que les mettre en prison, ça va régler quoi que ce soit comme problème. Ça fait juste éviter de gérer la situation. Puis on essaie de toujours apporter un regard plus sur les personnes migrantes puis l'expérience des personnes migrantes. Mais je pense que c'est des problèmes qui sont structurels, liés à différents systèmes d'oppression qui font en sorte que les gens se ramassent en prison. Puis on pense vraiment pas que mettre des gens en prison, c'est ça qui peut régler quoi que ce soit. Ça fait juste... nous distancier, dans le fond, face à différents problèmes sociaux. Puis... ce qui est poche là-dedans, c'est que ça l'affecte souvent les mêmes personnes, puis que après ça, c'est que ça crée des traumas qui sont difficilement réparables après, tu sais. Puis c'est ça que je pense, en tout cas, qu'il faut réfléchir aussi. Puis c'est ça, je pense que c'est important de pas faire de hiérarchisation aussi entre les prisons, tu sais. C'est pas juste un centre de détention, c'est une prison, tu sais. C'est les mêmes conditions de détention, c'est une prison pour personnes migrantes. Fait que ouais, c'est ça, fuck les prisons, puis je pense que c'est important qu'on continue à lutter, puis qu'on se solidarise aussi avec d'autres groupes abolitionnistes au Canada, puis aux États-Unis, je pense, parce qu'il y a beaucoup de luttes qui se ressemblent, puis parfois on lutte un peu confiné sur un territoire X, mais alors qu'il y a beaucoup d'autres groupes qui militent aussi avec des perspectives abolitionnistes, par exemple. Puis je pense que en tant que personne de gauche, anarchiste, etc., c'est vraiment... une lutte qui, pour moi, en tout cas, principale là, de lutter contre les prisons.
Les prisons pour migrants et migrantes constituent l'extension des mécanismes d'immigration du gouvernement canadien qui vise à ne permettre l'entrée que de personnes qui peuvent bénéficier à la croissance économique. Les nombreux programmes de travailleurs et travailleuses migrants temporaires illustrent bien cette réalité. On ne veut que des personnes dans la fleur de l'âge, pour 5 ans seulement, formées sans que l'on ait à investir dans nos écoles et qui ne bénéficieront jamais de nos fonds de pension ou de tout autre programme social. Ces migrations temporaires, contrôlées et hyper sélectives, reposent sur un pouvoir répressif. Il faut, pour qu'elles fonctionnent, que de plus en plus d'argent soit investi dans les structures punitives. Ce contrôle permet à certains de s'enrichir. En effet, c'est parce que les riches veulent faire plus de fric sur la cueillette de leurs concombres que ces structures sont nécessaires. C'est aussi fréquemment à cause des compagnies minières canadiennes que les populations sont déplacées, pour finalement immigrer. La misère des migrantes et des migrants, c'est ce qui paye l'hypothèque des maisons de Westmount. Ainsi, autant que les autres prisons, les centres de détention pour personnes migrantes ne servent qu'à perpétuer des injustices. Celle-ci prouve l'hypocrisie du gouvernement canadien qui affirme que les migrants et les migrantes sont les bienvenus ici alors que la réalité, en fait, elle est violente et elle est traumatisante pour les personnes qui se retrouvent dans ces prisons. Entre autres parce qu'elles ne savent même pas quand elles en sortiront. Le gouvernement et les médias justifient le traitement réservé aux réfugiés en prétendant qu'ils viendraient ici pour abuser de nos richesses ou qu'elles sont des criminels puis qu'ils risqueraient de s'enfuir à tout moment. Nous devons absolument nous défaire de ces préjugés et exiger l'abolition de ces centres de détention, comme de toutes les autres prisons.
Maintenant, des nouvelles directement applicables à votre vie. Le Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal commence cette semaine. C'est un festival annuel d'art multidisciplinaire dont les billets coûtent un maximum de 15 $ et les artistes reçoivent 100% des revenus. Pour plus d'informations sur les représentations, visitez le site web officiel Fringe qui est montrealfringe.online.red61.ca. Et le Community Cooks Collective cherche des chauffeurs bénévoles pour livrer des repas à Résilience Montréal et à la Porte Ouverte. Ces deux organisations servent la communauté à faible revenu et sans-abri de Montréal. Pour plus d'informations sur cette opportunité de bénévolat, veuillez envoyer un message au compte Community Cooks Collective par Instagram.
Le Prison Radio Show est une émission radio avec des nouvelles pour les prisonnières et leurs alliés et familles. L'émission cherche à confronter l'invisibilité des prisons et la lutte des prisonnières en se concentrant sur les racines de l'incarcération, de la police et de la criminalisation. Nous sommes dédiés à des programmes qui collaborent directement avec des personnes actuellement incarcérées. Dans cet esprit, nous aimerions vous faire savoir qu'on a une ligne téléphonique pour les prisonnières et leurs amis et familles. Vous pouvez nous appeler Collect de la prison de Bordeaux et de la prison Rivière-des-Prairies en composant le numéro 514-876-3748. Encore une fois, c'est 514-876-3748 pour les appels Collect. On a aussi un numéro normal qui est 438-337-8423. N'hésitez pas à appeler ce numéro et à nous laisser un message avec des nouvelles à partager sur l'émission ou un message audio pour vos proches à l'intérieur.
À qui les donner? À nous les donner!
Lorsqu'on ne paye pas pour un produit, on est le produit. Particulièrement dans le cas de l'hébergement des courriels et des sites web où les compagnies multinationales se battent pour les profits produits par les magnifiques communications de vos organisations. Kumbit est une coopérative de travail qui essaye d'aider les petites organisations ou les particuliers à se réapproprier leurs communications par l'hébergement de courriels et de sites web ainsi que par la création de sites web. Si c'est votre désir, contactez-nous à kumbit.org. ou par courriel à info@kumbit.org, KOUMBIT.org. On n'est pas sur Facebook.
C'est enfin le retour des sourires, de tous les sourires. Le sourire timide, le franc, le fendu jusqu'aux oreilles, le poli, le crispé, le complice et le doux. Parce que le port du masque n'est plus obligatoire au Québec, sauf dans les transports collectifs, dans les établissements de santé et durant les jours suivant votre isolement si vous avez eu la COVID-19. Si vous en sentez le besoin, portez-le sans hésiter et faites-le avec le sourire. Un message du gouvernement du Québec.
Thank you. We'll be right back. Esto es únicamente una prueba. Uno, dos, uno, dos.
In Montreal.
CKUT. All the rhythms, all the music, all the time.
90.3 FM.
The following is a previously broadcast program.
What's up, everybody? Welcome back to another episode of Ask Miss Chris. I hope you had a wonderful Easter weekend. You know, as a Catholic, I cherish the moments of Easter. He has risen, and I am here tonight with you every Monday, 6 p.m. per usual. But today is very special, like I said. I wanted to do something different because of Easter. I just wanted to be surrounded with people that I love, with people that would be sharing some like-minded opinions and also divergent opinions. Because, you know, we're not all the same girls. We're all very different in our own, but the topic today, as I mentioned, is club etiquette, how to behave in nightlife spaces. And with me today, I have the wonderful Miss Muneev. Say hi, Muneev.
Hola. Hey. Hi.
Sitting right next to her, we have the lovely Miss Sayana.
What's up, everyone?
And on the other side, we have the beautiful Miss Mimi.
Hello. Hello, everyone.
And last but not least, the lovely Miss Tark.
Hey, hey, hey.
Also, make some noise at home for my technician, Miss Rianne. Lovely to have her another day with us. Yes. Nice. All right, ladies, let's get into some things. We passed.